Ralph Waldo Emerson, La vie domestique. En ce qui concerne les enfants, on s'accorde aisément à reconnaître l'excellence de la Providence. La puissance qui prend soin de protéger la semence de l'arbre sous une cosse épaisse et une gaine pierreuse donne à la plante humaine le sein de la mère et la maison du père. La taille du poussin est plaisante. Et sa faiblesse touchante et délicate est parfaitement compensée par le regard protecteur de la mère, qui est pour lui une sorte de providence à laquelle il peut se fier pleinement. Bienvenue pour les parents et ce petit lutteur, fort dans sa faiblesse, avec ses petits bras plus irrésistibles que ceux du soldat, ses lèvres douées d'une persuasion que Chatham et Périclès, à l'âge d'homme, n'ont jamais possédé. Ses franches lamentations quand il élève la voix au diapason aigu, ou, spectacle plus prenant, quand il sanglote, le visage ruisselant de larmes, et essaie d'avaler sa mortification, ouvrent tous les cœurs à la pitié et à une joyeuse et bruyante compassion. Le petit despote demande si peu que toute la raison et la nature sont de son côté. Son ignorance a plus de charme que toute la science, et ses petites transgressions sont plus captivantes que n'importe quelle vertu. Sa chair est une chair d'ange, toute vie, toute sensibilité. L'enfance, disait Coleridge, montre le corps et l'esprit ne faisant qu'un. Le corps est tout animé. Toute la journée, entre ces trois ou quatre sommes, il roucoule comme un pigeon domestique, bredouille, s'agite, prend des airs d'importance. Et quand il jeûne, le petit pharisien ne manque pas de sonner la trompette devant lui. À la clarté de la lampe, il fait ses délices des ombres sur le mur, à la lumière du jour, du jaune et du pourpre. Portez-le au dehors. Le voilà subjugué par la lumière et l'étendue des choses, et il reste silencieux. Puis, il commence bientôt à se servir de ses doigts et fait l'apprentissage de la force, leçon de sa race. D'abord, cette activité se manifeste sans grand dommage par des goûts architecturaux. À l'aide de morceaux de bois, de bobines, de cartes, de pièces du jeu de dames, il construit sa pyramide avec la gravité de Palade. Avec un appareil acoustique fait de sifflets et de hochets, il expérimente les lois du son. Mais surtout, comme ses compatriotes plus âgés, le jeune Américain étudie des modes de transport nouveaux et plus rapides. Se défiant de la capacité de ses petites jambes, il désire chevaucher sur le cou et les épaules de toute créature vivante. Rien ne peut résister à ce petit magicien. Ni la supériorité de l'âge, ni le sérieux du caractère, oncle, tante, grand-père, grand-maman lui sont une proie facile. Il ne se soumet à personne, et tous se soumettent à lui. Tous gambadent, lui font des mines, babillent et gazouillent. Il chevauche sur les épaules les plus fortes, étire les cheveux aux têtes couronnées de lauriers. L'enfance, dit Milton, montre l'homme comme le matin montre le jour. L'enfant représente aux hommes leurs expériences premières et supplée ainsi à une lacune de notre éducation, nous rend capables de revivre l'histoire inconsciente avec une sympathie si vive qu'elle en fait presque une expérience personnelle. Rapidement, presque trop rapidement pour la curiosité attentative des parents, contemplant le charme des boucles, des fossettes et des mots estropiés, le petit parleur devient un jeune garçon. Il marche quotidiennement au milieu de merveilles, le feu, la lumière, les ténèbres, la lune, les étoiles, les meubles de la maison, le cheval d'étain rouge, les domestiques qui, comme de rudes nourrices, sympathisent avec lui et l'élèvent, les visages qui réclament ses baisers, l'absorbent à tour de rôle. Cependant, ardent, gai et de bon appétit, le petit souverain les subjugue sans le savoir. La science nouvelle entre dans la vie du présent et devient un moyen d'en acquérir davantage. La rose épanouie est un événement nouveau. Le jardin plein de fleurs est de nouveau le paradis pour le petit Adam. La pluie, la glace, la gelée font époque dans son existence. Quelle fête est la première neige où l'on permet à deux petits souliers d'aller dehors? Quel art pourra dans l'avenir peindre ou embellir les objets avec cet éclat que la nature donne aux premières bagatelles de l'enfance? Saint-Pierre ne peut avoir sur nous le pouvoir magique que possédait la couverture rouge et or de notre premier livre d'images. Comme chaque journée lumineuse et brève est un plaisir pour les gentils débutants, la rue est aussi vieille que la nature. Les personnes ont toutes un caractère sacré. Sa vie imaginative part les choses de leurs plus riches vêtements. Ses craintes décorent de poésie les parties obscures. Il a entendu parler de chevaux sauvages et de mauvais garçons. Et avec un agréable sentiment de terreur, il guette à la porte le passage de ces variétés de chaque espèce. La première chevauchée dans la campagne, le premier bain dans l'eau courante, les premiers patins qu'il chausse, le premier jeu en plein air au clair de lune, les livres de la nurserie sont de nouvelles pages de bonheur. Les divertissements des nuits arabes, les sept champions du christianisme, Robinson Crusoé et le voyage du pèlerin, quelle mine de pensées et d'émotions! Quel vestiaire pour habiller le monde entier ne trouve-t-on pas dans ces encyclopédies du jeune âge? Et ainsi, grâce à de beaux exemples, qui, bien que semblent les chefs-d'œuvre de la sagesse, provoquant l'amour, veillant sur lui et l'éduquant, le petit pèlerin poursuit à travers la nature le voyage qu'il a si agréablement commencé. Il grandit, ornement et bonheur de la maison qui retentit de sa joie, de sa fraîche jeunesse. La maison est le foyer de l'homme aussi bien que de l'enfant. Les événements qui s'y produisent sont plus près de nous et nous touchent davantage que ceux que les sénats et les académies approfondissent. Les événements domestiques nous regardent certainement. Ce que l'on appelle les événements publics peuvent être notre affaire ou ne pas l'être. Si quelqu'un désire s'initier à l'histoire réelle du monde et à l'esprit de l'âge présent, il ne doit pas aller d'abord à la salle des États ou au tribunal. C'est en des choses plus proches qu'il faut chercher l'esprit subtil de la vie. C'est ce qui se fait et se souffre dans la maison, la constitution, le tempérament, l'histoire individuelle qui a pour nous l'intérêt le plus grand. La réalité vaut mieux que la fiction, si seulement nous pouvions avoir la réalité pure. Croyez-vous que de belles phrases ou un conte pourraient vous détourner de la sagace bohémienne qui dirait sur-le-champ le destin réel de l'individu? Réconcilierait votre caractère moral et votre histoire physiologique. Expliquerait vos malheurs, vos fièvres, vos dettes, votre tempérament, vos habitudes de pensée, et qui, en chaque explication, ne vous séparerait pas de l'ensemble, mais vous unirait à lui. N'est-il pas évident que ce n'est point dans les sénats, les tribunaux ou les chambres de commerce, mais au foyer?